le pire, au fond, pour quelqu'un aujourd'hui, pas seulement pour les écrivains, ce serait d'être confiné en soi-même. La vieille tour d'ivoire, comme on disait pour les poètes, ça me semble tellement dépassé, tellement ridicule. Le fait de réfléchir, de penser, d'aimer, et ces trois mots coïncident dans l'acte d'écrire, ben tout ça implique d'être absolument à l'écoute, enfin de sortir de chez soi à tous les sens du terme.
Il n'a pas d'actualité précise et c'est bien quand une personnalité prend deux heures pour exprimer par le choix de ses invités ses goûts, ses aspirations. Il est comme une photographie passée de bain en bain qui lentement se révèle au fil des conversations. Yannick Hennel connaît la solitude, celle de l'écrivain assis à son bureau, mais vous l'entendiez, il est curieux aussi des autres et du monde dans lequel il vit. Pour Charlie Hebdo, par exemple, en fin d'année dernière, il a rédigé nuit après nuit ce qu'il avait entendu le jour au tribunal durant le procès des attentats de 2015. Entendre, comprendre la violence, peut-être celle que l'on assène, celle que l'on subit et la restituer avec des mots. Entre autres expériences, il s'est laissé aussi enfermer au Centre Pompidou, à Paris, dans l'exposition du peintre Bacon, pour ressentir autant d'émotions que de peur, pour s'éprouver et pour l'écrire. Comme lui, dans ses romans, les petits soldats cerclent Yann Karski, tient ferme ta couronne, les personnages s'éprouvent. Ils se mettent en marche, découvrent le monde, sa beauté, sa monstruosité, et cette fréquentation les modifie. Bonjour Yannick Hennel.
Bonjour.
L'écrivain que vous êtes, en fait, ne se conçoit pas sans nous. Nous, humains, dans nos fragilités, nos forces, notre folie, nous vous animons.
Je crois que les phrases, celles qu'on cherche, celles qu'on écrit, sont des aventures. Je crois même que c'est Flaubert qui a dit ça. Les phrases sont des aventures.
C'est voilà. Beau.
Bah, c'est pas mal, oui.
Ça veut dire qu'on peut prendre un chemin à droite, à gauche, au centre, et qu'on ne sait pas vraiment, quand on commence à écrire, quel sera ce chemin.
Ben, ça veut dire que dans chaque phrase, il y a le monde entier. Et il n'y a pas seulement notre solitude, ni même notre plus grande solitude, mais il y a du monde. Les phrases sont des rencontres. Et pour moi, depuis que je suis petit, au fond, la poésie, le cœur poétique de chaque phrase, c'est ma manière à moi de penser, voilà. Je pense en phrase, je m'ouvre en phrase, j'aime en phrase. Hein. Rien ne va sans dire, je crois que tous les psychanalystes savent ça.
Quand vous dites j'étais petit et je pensais déjà en termes de phrases et j'avais, ouais, un appétit de mots, je vous pense en Afrique parce que vous êtes le fils d'un militaire qui a notamment travaillé en Afrique et les enfants Hennel étaient là-bas avec lui. La famille,
ouais,
était là-bas.
Ouais.
Et comment, dans cette Afrique de l'enfance, les mots viennent à Yannick Hennel?
Mais par la musique. Par le chant et la musique, par les ritournelles. Les ritournelles à la fois Hausa et Djerma, puisqu'on était au Niger. Les ritournelles Bambara, les ritournelles françaises. Donc on baignait dans des langues qu'on comprenait parfois pas, ma sœur et moi. Les phrases musicales, leur tempo, leur vibration, leur érotisme. Voilà, c'est dès l'origine, il y a ça.
Déjà, parce que dans vos livres, on les trouve aussi, ces moments où l'érotisme a besoin d'être présent, parce que le monde est parfois monstrueux. Alors un roman d'Yannick Hennel oscille entre cette description de ce qu'on peut vivre d'horrible ou d'heureux, mais aussi la jouissance nécessaire, comme un contrepoint.
Mais je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, avant, on parlait, je dirais, dans les temps anciens, d'enfer et de paradis, mais ce sont les deux polarités de l'existence elle-même. Enfin, chaque jour, je dirais, angoisse et jouissance. Et je pense qu'une véritable expérience, pas seulement d'écriture, pas seulement de littérature, mais de pensée, de vie, tout simplement, c'est une négociation intime avec ces deux polarités-là, hein, avec le pire et le plus beau. Enfin, et moi, tous les gens que j'aime et qui me font travailler, qui me font réfléchir, qui m'octroient un peu plus de vie et d'existence, et j'en ai invité aujourd'hui,
ouais, on va les découvrir.
Sont des personnes qui précisément sont travaillées par cette polarité.
Alors on les présente, c'est Delphine Orbiller qui est rabbin. Bonjour Delphine Orbiller.
Bonjour.
Bienvenue. Merci. Et puis un historien masqué. C'est Patrick Boucheron. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Aussi. On se souvient,
merci,
de votre grand atelier. L'historien que vous êtes, Patrick Boucheron, animateur d'une somme récente. L'histoire mondiale de la France est à la frontière entre plusieurs domaines. Et c'est sans doute une avancée d'ailleurs dans la pratique du métier d'historien. Vous êtes scientifique, chercheur, à l'origine un médiéviste, un spécialiste de la Renaissance, mais le contemporain est aussi un temps qui vous habite. On vous voit associé à un théâtre, le TNB de Rennes. On peut vous voir au cinéma quand Bertrand Bonello vous dit « Venez passer une scène chez moi » dans le film Zombie Child. L'historien, comme le romancier Hennel, doit sortir de son bureau, de sa bibliothèque.
Qu'est-ce que cherche vraiment un chercheur? Il cherche ce que
Yannick Hanel décrit comme le lieu où l'on peut être vivant. Alors évidemment, il y a du savoir, bien sûr, il y a de la vérité, et c'est très important la vérité, et en particulier dans l'œuvre de Yannick Hanel, j'y reviendrai, c'est un mot qui peut peser effectivement son lest métaphysique et donc inquiéter, mais, oui. Mais en fait...
La recherche de la vérité.
Oui.
Ça ne veut pas dire qu'on la trouve. Hein.
Vous y faisiez allusion pour celles et ceux qui ont lu les comptes rendus
du procès
des attentats de
2015.
Oui, dans 2015. Eh bien, ce mot-là était Yannick obsédant, la vérité, c'est-à-dire et la vérité de la parole, c'est-à-dire pas le fait qui vous donne raison, mais ce qui au fond surgit de l'intérieur même du langage.
Delphine Horwiller, est-ce que ça vous parle ce que dit à l'instant Patrick Boucheron, votre voisin historien ?
Oui, absolument.
Parce que je vois que vous prenez des notes.
Oui, parce que moi je gribouille toujours, j'ai besoin du rapport entre l'écrit et l'oral, c'est peut-être une déformation professionnelle, j'ai besoin d'écrire, réfléchir.
Qu'est-ce que vous avez noté comme mot là ?
J'ai noté la phrase, une phrase comme une aventure, parce que je trouve que c'est tellement juste, à la fois le processus d'écriture qui fait que on ne sait pas jamais où la phrase vous emmène, mais aussi la conscience que la phrase, même une fois écrite, n'a pas fini son aventure. C'est-à-dire que la question de l'interprétation et l'exégèse fait comprendre à tout lecteur que les mots n'ont pas fini de parler et qu'ils attendent qu'un nouveau lecteur s'en empare, un lecteur qui parfois n'est pas encore né, n'a pas encore surgi. Et ça nous oblige à beaucoup d'humilité quand on est dans un travail d'écriture.
Parce que vous écrivez aussi pas mal de livres, hein, assez régulièrement, qui sont sans doute des sommes qui tâchent de faire de la pédagogie, faire en sorte que nous vivions bien ensemble, que nous soyons croyants ou athées d'ailleurs, vous faites en sorte de nous réunir.
Je crois que la religion, enfin comme son nom l'indique ou devrait l'indiquer étymologiquement, est un souci de relier. À la fois un souci de relier ou un souci de relire. Vous savez qu'il y a une ambiguïté sur ce que signifie exactement le mot religieux, et je suis attachée à ces deux significations. Le fait que dans ma démarche, je me pose la question toujours du lien possible, du lien que permet le texte à l'intérieur d'une génération ou entre les générations, entre les gens, entre des gens différents, et la capacité de relire que nous propose un texte. Pour moi, l'entreprise religieuse, c'est une entreprise de relecture, c'est-à-dire la conscience que on ne sait pas ce qu'a voulu dire l'auteur, et parce qu'on est dans cette humilité d'un contexte différent, eh ben on peut encore faire parler le texte, et on sait qu'on peut le faire parler pour la vie ou pour la mort. On sait malheureusement, et Yannick en a été ô combien témoin, voilà, dans ce procès qu'il a suivi, qu'il y a des gens qui font parler les textes pour la mort, mais il y a une possibilité de les faire parler autrement, et c'est une question de responsabilité du lecteur.
On va évoquer, développer tous ces grands et beaux thèmes que vous-même venez d'évoquer, Patrick Boucheron, Delphine Horwiller et Yannick Hanel. On va écouter un peu de musique, parce que vous êtes amateur de musique depuis toujours, peut-être depuis l'Afrique, vous le disiez, elle est entrée en vous quand vous étiez un petit garçon. Vous écoutez de la musique africaine, vous écoutez du baroque, vous écoutez du rock. Il y a une femme qui vous touche particulièrement, c'est l'américaine Cat Power, on m'a dit.
Absolument. Elle me fait même pleurer, au fond.
Et pourquoi ?
Pour moi, elle fait du blues sans avoir besoin de faire du blues. C'est une baudelairienne, vous voyez. Je ne sais pas si elle lit beaucoup Baudelaire, peut-être que oui. Il y a cette mélancolie qui frôle sans cesse la vérité dont parlait Patrick Boucheron, une vérité sensible, une vérité à la fois qui parle au cœur, qui n'est pas vérifiable, qui ne relève pas de la preuve, mais qui relève aussi chez elle, je le sens bien, enfin... d'une histoire de la douceur, comme dirait Patrick Boucheron, et d'une histoire du malheur aussi.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter. You can watch
Voilà, Cat Power qui n'émeut pas seulement Yannick Enel, bien sûr, peut-être vous chez vous, mais aussi Patrick Boucheron.
Oui, parce que, en fait, par hasard, c'est la bande-son de mon travail actuellement.
Ah,
je
oui
travaille sur La Peste Noire, et dans son dernier album, il y a un morceau magnifique qui s'appelle Black, et où, en fond sonore, elle dit la grande faucheuse en français.
La musique vous accompagne aussi alors ouais dans votre travail d'historien. Ouais. Yannick Enel, vous avez choisi pour la première heure l'historien Patrick Boucheron et le rabbin, on dit le rabbin.
Hein, oui, on dit le rabbin.
Delphine Orwiller, en nous disant, j'ai envie de gens avec qui je dialogue, j'ai envie de la présence de ces personnes-là parce qu'il y a un dialogue. Par exemple, avec Delphine Orwiller, rabbin, quel est le dialogue de Yannick Enel et de Delphine Orwiller?
Alors, c'est un dialogue qui ne fait que commencer, puisqu'on ne s'est jamais rencontré. J'ai profité de l'occasion pour choisir quelqu'un que j'ai très envie de connaître. Mais c'est un dialogue qui a toujours lieu, comme dirait Derrida. Enfin, parce que pour moi, la littérature, c'est une expérience intérieure. Et je me pose sans cesse, à chaque instant, la question de la possibilité de l'expérience intérieure. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la violence du monde, dans le fracas de nos activités, dans nos connexions et déconnexions permanentes, est-ce qu'on a non seulement le temps, mais l'envie encore d'une expérience intérieure? Et qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'une expérience intérieure, enfin, c'est vraiment des questions que je me pose. Est-ce qu'on peut avoir une expérience intérieure quand on ne croit pas en Dieu? Qu'est-ce que c'est que de croire en Dieu? Enfin, vous voyez, je me pose carrément des questions avec des grands mots. Hein.
Mais qu'est-ce que vous appelez une expérience intérieure après tout?
J'aimerais poser la question à Delphine Orwiller. Moi, mes réponses sont mes romans, en fond. Des initiations personnelles à l'existence. Enfin, le fait de s'initier à chaque instant à l'existence et de revenir sur soi pour y penser. Mais je sais pas, oui, je me demande comment on fait. Voilà.
D'abord, je dois dire, je suis très touchée par cette invitation parce que moi, j'ai croisé Yannick Enel par de bien des manières, sa voix, ses livres, et puis alors je ne sais pas s'il le sait, mais je pense que peut-être qu'il le sait cette année. En fait, c'est lui qui m'a soufflé mon sermon de Yom Kippour. En fait, au jour de Yom Kippour, qui est le jour le plus important de l'année juive, dans le sens où c'est un moment de retrouvailles de toute une communauté, un moment difficile pour les rabbins souvent parce qu'il faut écrire un grand sermon que les fidèles attendent toute l'année. Et ben la veille de Yom Kippour, alors que je cherchais ce que je devais dire, les procès venaient de commencer, les procès des attentats de janvier 2015, et dans ma tête il y avait un air de la liturgie juive qui résonnait, celui qui qui ouvre Yom Kippour. Il y a un chant qui ouvre Yom Kippour avec ces mots. Je peux même les chanter. Ça
Allez-y.
Commence par Vishiva shel mala, Vishiva shel mata. Ça veut dire dans l'assemblée céleste, dans l'assemblée de ceux qui sont en haut et dans l'assemblée de ceux qui sont en bas, nous autorisons tous ceux qui sont présents à prier. C'est-à-dire que c'est une sorte de trois coups de théâtre. On ouvre ce moment par la conscience de ceux qui est en haut et de ceux qui est en bas, qui se rejoint en cet instant. Et quand je pensais à ce chant, quand je m'y préparais, j'ai commencé à lire un article que Yannick avait écrit.
Dans Charlie Hebdo, sur les procès, oui. Voilà,
qui était précisément le témoignage de Zari Siboni, de cette caissière de l'hypercacher.
De Vincennes, oui, qui a sauvé des gens, qui les a accompagnés,
qui a
été menacé par Koulibaly.
Et la façon dont Yannick le racontait, de façon tout à fait étrange, c'est qu'il parlait du monde d'en haut et du monde d'en bas, mais qui racontait ce qui se passait au cœur de l'hypercacher, ces escaliers, il y avait des gens en haut, il y avait des gens cachés en bas, et la façon dont elle a fait le lien, Vishiva shel mala, ou Vishiva shel mata. En fait, tout à coup, il me paraissait évident qu'elle avait été, dans la façon dont tu le racontais, le tutoyais, vous le racontiez, qu'elle avait finalement été cette, comme une présence, je sais pas si on peut dire un ange, au contraire, une humanité puissante qui faisait le lien entre en haut et en bas. Et donc, voilà, les mots de Yannick Enel m'ont accompagné, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, des moments où on a besoin de ce dialogue. C'est intéressant parce qu'on parlait du dialogue intérieur. Et on posait la question, qu'est-ce que c'est qu'un dialogue intérieur? Moi, je pense que...
Une expérience intérieure, même.
Oui. Mais je trouve que tout dialogue intérieur implique la prise de conscience qu'il n'y a pas de monologue intérieur. Il n'y a pas de monologue intérieur, en fait. Tout monologue est la conscience qu'il y a un autre en soi. Et quand on commence à savoir qu'il y a de l'autre en soi, mais c'est de l'autre dans son texte, de l'autre dans sa voix, de l'autre dans son histoire, eh ben ça devient intéressant.
Est-ce que ça parle à l'historien que je crois athée, Patrick Boucheron ?
Oui, bien sûr, parce que c'est une manière aussi de définir la littérature comme Yannick Enel le fait. C'est-à-dire de manière à la fois tendre, érotisée et intransigeante. Et qui est tout le contraire, au fond, de l'expression de soi. Qui est une manière de se rendre ouvert, offert, disponible à tout ce qui peut venir de loin. Je signale au passage d'ailleurs que pour celles et ceux qui voudraient, alors évidemment il y a tous les livres de Yannick à lire, hein, mais un des petits derniers qui s'appelle Diane et Actéon, le désir d'écrire, dit bien cette art poétique, et je me permets d'en citer un passage qui justement va résonner avec ce que dit Delphine Horviller. Je pense que la littérature est un lieu où des voix, arrivées de toujours, s'en vont partout, comme dirait Rimbaud. Un lieu où il n'est pas possible de se satisfaire de sa petite voix personnelle, mais où le langage s'ouvre aux voix qui ne cessent de revenir depuis toutes les époques, où il fait l'expérience de cette parole qui parle à l'intérieur de la parole.
Ah oui, on est dans le sujet.
J'ai l'impression, oui. Mm-hmm.
Et moi, quand j'entends Yannick Enel poser comme première question à Delphine Horviller, à Rabin, qu'est-ce qu'une expérience intérieure, je me projette, je suis peut-être un peu trop sentimental, dans votre adolescence, Yannick Enel. Vous rentrez d'Afrique avec vos parents et on vous place dans un lycée militaire célèbre, le Prytané militaire de la Flèche, si je ne m'abuse.
Oui.
Et vous êtes un enfant hyper malheureux, vous êtes en treillis, crâne rasé, avec une éducation très rigoureuse, très sévère, sans doute injuste. Et plutôt que de vous enfuir, ou pourquoi pas de mettre fin à vos jours, tellement la violence était réelle dans votre éducation, vous décidez justement de vous intérioriser. Vous pensez à l'intérieur de vous-même, vous lisez, l'écriture va naître de ce conflit avec le monde extérieur. Elle est là, votre première grande expérience intérieure.
C'est vrai, elle relève de la coercition, disons, qui s'exerce sur une communauté d'enfants, au fond. Mais oui, j'ai choisi de à la fois de m'enfermer, mais de manière, je dirais, tactique. Puisque l'affrontement nous vouait déjà à l'échec, c'était suicidaire. Et j'ai choisi, je sais pas, j'ai eu un coup de lucidité à 14 ans, j'ai choisi de déserter intérieurement.
C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qui se passait dans votre tête ?
Eh ben, je me suis dit qu'il fallait que j'attende et que mon temps arriverait. Voilà, c'était un pari un peu fou, hein, de faire une parenthèse dans sa vie jusqu'à, en attendant que je sorte de là.
Et en la nourrissant de lecture?
Alors c'est là que j'ai lu, effectivement, L'autre est à mon, Moby Dick. Il y a deux choses qui m'ont foudroyé. Quelqu'un m'a dit, c'était un grand, comme on dit au lycée, un grand m'a dit, tiens, ça, tu vas lire ça, tu vas voir, ça va t'électriser. C'était Les Chants de Maldoror, de L'autre est à mon. Et ça a été fou parce que ça parlait de quelque chose qui était bien plus puissant que la coercition militaire. C'était tout simplement le satanique, en fait, le diable. Et la manière dont une révolte pouvait avoir lieu. C'est-à-dire qu'on m'a offert la possibilité dans la littérature, tout de suite, à travers un livre, de me placer sur un plan métaphysique. Voilà. Je me suis ménagé comme ça une petite expérience intérieure, alors qui est celle du léger retrait.
Est-ce que ce retrait vous a amené à l'écriture?
Ben, je pense, oui, parce que quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui est absolument au cœur de toutes les choses, qui aurait même, dans le meilleur des cas, la faculté d'aimer les pensées des autres plus que soi-même. Pas de se les approprier, mais de s'ouvrir à toutes les pensées. Et c'est quelqu'un qui est capable aussi d'avoir une solitude. Tout nous prive aujourd'hui de la solitude. Avoir une solitude, la posséder, comme Rimbaud parle de posséder la vérité dans un corps et une âme, c'est le dernier trésor, le plus précieux. Plus on arrive à avoir une solitude, plus on aime les autres.
Vous aimez Aragon ?
Ouais, beaucoup. Ouais. La défense de l'infini, par exemple, me bouleverse. Son côté anarchiste, ça me grise. Enfin, les années où je le trouvais plus fort que Breton. Enfin, lui aussi s'est réservé. Il a pas tout dit. C'est un homme masqué. Enfin, Aragon. Donc, dans les années 20, c'est prodigieux ce qu'il écrit. Le libertinage, la défense de l'infini, le paysan de Paris. C'est cette période que j'aime pour l'instant.
J'ai envie qu'on écoute du Aragon par Ferré quand il s'agit de l'étrangère, parce qu'il y a finalement pas mal d'érotisme dans ce texte.
J'adore Léo Ferré aussi. Oui.
Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. En bande, on s'y rend en voiture, ordinairement au mois d'août. Ils disent la bonne aventure pour des piments et du vin doux. On passe la nuit claire à boire, on danse en frappant dans ses mains, on n'a pas le temps de le croire, il fait grand jour et c'est demain. On revient d'une seule traite, gai, sans un sou, vaguement gris, avec des fleurs plein les charrettes, son destin dans la paume. J'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans ma maison. Elle avait les yeux d'outre-mer, elle en montrait la déraison. Elle avait la marche légère et de longues jambes de fente. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. Celle-ci parla vite, vite, de l'odeur des magnolias, sa robe tomba tout de suite quand ma hâte la délia. En ce temps-là, j'étais crédule, un mot m'était promission, et je prenais les campanules pour les fleurs de la passion. À chaque fois, tout recommence, toute musique me saisit, et la plus banale romance mais l'éternelle poésie. Nous avions joué de notre âme un long jour vivre une courte nuit. Puis au matin, bonsoir madame, l'amour s'achève avec la pluie.
Léné Quesnel, la présence de Patrick Boucheron, à quoi est-elle due? Quel est le dialogue entre cet historien médiéviste à l'origine, mais qui s'intéresse finalement à toutes les époques, hein, et vous, le romancier?
Alors, d'abord, j'ai tout simplement lu ses livres. Il y a un livre qui s'appelle « Conjurer la peur », qui m'a ébloui, parce que c'est un livre qui s'attache à décrire, sur une centaine de pages, une fresque de Ambrogio Lorenzetti. C'est une fresque qu'on peut voir dans un palais à Sienne et qui parle du mauvais et du bon gouvernement. Ça, c'est quand même une question qu'on se pose à peu près tous, qui a traversé les temps. Et surtout, à travers cette étude, très vite, dès les premières phrases, j'ai été stupéfait quand j'ai lu ce livre-là, de voir que dans la grande tradition des très grands historiens, il y a une langue qui devient en fait le véritable sujet. C'est-à-dire que c'est une expérience poétique. Il s'agit pas seulement de décrire à plat quelque chose qu'on irait sortir du passé et qu'on exhumerait simplement pour le nettoyer un peu, mais de redonner vie par la langue, par la parole justement, à quelque chose qui est là de toujours. Enfin, et alors, plus précisément, il y a une page où Patrick Boucheron, dans le dernier chapitre, se permet de parler à la première personne et raconte un dernier voyage à Sienne, où il retourne pour revoir et revoir encore cette fresque, il tourne autour, et il se rend compte qu'il y a une chose qui peut-être à la fois manque et complète cette fresque, c'est qu'il y a une fenêtre dans le palais, et il rentre à nouveau dans ce palais, et il regarde à nouveau la fresque, et comme il n'y a personne, il va se permettre d'ouvrir la fenêtre, et en ouvrant la fenêtre, en faisant entrer le soleil et la lumière toscane, il se rend compte que cette fresque, qu'on croyait incomplète, finalement est complète grâce à la lumière du dehors. Bon, ça c'est bouleversant. Enfin, là je me suis dit, c'est génial de faire de l'histoire. J'aurais dû faire ça.
Patrick Boucheron, c'est important ce que dit Yannick Quesnel. On parle toujours de la sacro-sainte objectivité de l'historien. Et vous nous dites, non, un historien peut faire avec son propre tamis, sa propre expérience, avec son jeu J.E.
Oui, et puis en acceptant l'idée que le réel, l'aujourd'hui, le bel aujourd'hui fasse effraction dans une étude qui par ailleurs doit être patiente et scrupuleuse. Mais effectivement, avec Yannick Quesnel, on s'est trouvé là-dessus, on peut dire assez banalement les rapports entre l'histoire et la littérature. Voilà, ça a commencé avec la discussion autour de son livre Yann Karski, et puis aussi avec Arthur Noziciel, que vous allez voir dans la deuxième heure, je crois.
Sera tout à l'heure le metteur en scène, Yann Karski.
Oui, donc ça nous est commun tout ça. Mais plus profondément, ce rapport, ce débat, ou je sais pas comment l'appeler, cette ritournelle entre histoire et littérature, elle ne gagne pas à être réduite au face-à-face entre le réel et la fiction. Et il vaut mieux effectivement qu'elle s'empare de la question de la langue. Et puis effectivement, ça me fait plaisir ce que dit Yannick Quesnel, parce qu'à la toute fin de ce livre, il me semble que j'accroche peut-être quelque chose qui est vraiment la limite, la frontière. On a parlé aussi ensemble de frontières entre l'histoire et la littérature, qui est moins la question de jusqu'où va me mener la phrase que serais-je capable de faire, comme l'écrit Marguerite Yourcenar, le portrait d'une voix. C'est-à-dire, au fond, la littérature, elle commence quand même aussi avec l'invention d'un narrateur qui n'est pas tout à fait soi. Donc le « je ». Ce moment-là dans le livre, je crois que je veux pas me faire l'exégète de moi-même. Enfin, ce n'est plus tout à fait moi. Précisément parce qu'il se laisse un peu glisser à la fois sur les pentes douces des collines toscanes, de part et d'autre de la fenêtre, les réels, les peintes, et puis aussi une sorte de bruit du temps, comme vous disiez.
Yannick Quesnel a employé le mot poésie à votre sujet, en tout cas au sujet de votre écriture. Vous revendiquez le fait d'être poète à votre manière, à votre façon, Patrick Boucheron, quand vous écrivez un livre d'histoire ?
Seulement si on se souvient avec Yves Bonnefoy, mais avec tant d'autres,
le poète Yves Bonnefoy,
que, que la poésie délivre une leçon d'exactitude. C'est-à-dire que je ne vais pas poétiser mon dire quand ça m'arrange parce que je ne suis plus sûr de rien. Non, au contraire, ça servirait plutôt à désigner le moment où on devrait, comme dans Diane et Actéon, j'y reviens, se laisser éclabousser par la vérité.
Delphine Orbiller.
Moi, je suis très sensible au dialogue qui est le vôtre entre littérature et histoire. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que finalement, je me rends compte que dans mon travail aujourd'hui au sein de la pensée religieuse, finalement, ce qui me tient le plus à cœur, c'est de redonner à l'histoire sa place dans l'exégèse. Je pense que ce qui définit aujourd'hui tous les fondamentalismes qui nous menacent, c'est la façon dont ils tentent d'expulser l'histoire de leur lecture. Et je trouve que c'est vraiment la question qu'il faut aujourd'hui travailler, la conscience des sédimentations historiques qui existent au sein de nos traditions religieuses.
Vous faites beaucoup ça dans vos livres. Quand je lis « Réflexions sur la question antisémite » de Delphine Orbiller, je vois que vous faites appel aux textes anciens pour essayer de comprendre comment l'antisémitisme est né, mais vous partez des textes.
Oui, je crois que je reviens toujours au texte, mais dans la conscience que, comme je disais tout à l'heure, le texte ne peut pas être lu hors contexte. Et le propre de tous les fondamentalistes, c'est que ils font comme si on pouvait lire hors contexte, comme si le texte avait toujours voulu dire ce qu'eux en comprennent. Alors que la vraie démarche d'exégèse, elle implique au départ de reconnaître qu'on ne comprend pas parce que nous ne vivons pas autant de ceux qui l'ont lu ou écrit ou édité. Et cette démarche, en fait, où d'une certaine manière, on est dans un exil de sens, en fait. C'est intéressant, tout à l'heure, on parlait de l'expérience d'adolescence ou de jeunesse de Yannick qui a impliqué qu'il se mette lui-même dans un exil intérieur. Je trouve que tout travail de lecture, en fait, implique de se savoir exilé dans son texte. C'est-à-dire qu'on est un étranger à celui qui nous l'a transmis, et donc on va s'en emparer en ayant fait un pas de côté dans la conscience aussi des sédimentations historiques qui sont à l'intérieur même de ma tradition et de ma lecture. Moi, je sais, quand je m'intéresse au texte, mais aussi au rite, au calendrier de ma tradition religieuse, je m'oblige à reconnaître, à percevoir toutes les influences étrangères qui l'ont constitué. C'est-à-dire que je peux vous dire, pour chaque fête juive, mais c'est vrai de chaque tradition autre religieuse, je peux vous dire ce qu'elle doit à sa rencontre avec un autre. Et tous ces gens qui vous racontent leur histoire comme si elle était pure de toute contamination, de toute influence, sont en fait des lecteurs mortifères. Et c'est exactement ce qu'il faut combattre aujourd'hui.
Yannick Kenel.
Oui, ça me plaît beaucoup de vous entendre, Delphine. Parce qu'au fond, je suis frappé par le fait que vous délaissiez toute certitude et que l'herméneutique, enfin le fait de réfléchir avec des textes, soit une, si j'entends bien ce que vous dites, soit une école du doute, au fond. J'avais relevé une phrase dans la revue dont vous occupez, Ténoua, qui est une très belle revue d'analyse, enfin de pensée. Il y a cette phrase qui m'a aidé pendant ces jours de procès interminables. Vous dites « Tout débat qui nous élève fait violence à nos idées, précisément pour ne pas faire violence à des hommes. » La pensée doit faire violence à nos idées. C'est extraordinaire de limpidité, de simplicité, c'est le béaba, et c'est précisément ce que tous les violents oublient. Que penser, c'est d'abord se faire violence à soi. Parce qu'au fond, dès qu'on se met à être sûr de soi dans sa propre pensée, alors on dérive vers la connerie, tout simplement, et la connerie, ce qui est le plus violent.
Ça doit parler à l'historien Patrick Boucheron, ça.
Ou simplement aux citoyens qui constatent qu'aujourd'hui, ce dont nous souffrons, c'est effectivement que la plupart, dans le débat public, de celles et ceux qui croient avoir raison, pensent qu'ils ont raison au seul motif qu'ils adhèrent à leurs propres convictions. Et donc, ce travail sur le texte, lire, relire, relier, c'est aussi un travail sur la transmission. Voilà. C'est évidemment quelque chose qui vous est commun, je crois, Delphine et Yannick. C'est-à-dire cette idée que ça ne nous vient pas tout cuit. On n'est pas indemne. On peut pas arriver comme ça dans le passé, comme si on y déboulait tout neuf. Si j'entends Ruteboeuf, par exemple, je l'entends chanter par Léo Ferré. Et je peux pas faire comme si je n'avais pas entendu Léo Ferré. Et même en tant que médiéviste, je dois effectivement faire gaffe. Je dois ne pas éclabousser, pour le coup, le passé de mes affects. Mais il me faut aussi considérer que ce passé, il me vient par une chaîne de transmission et que cette transmission, évidemment, le transforme. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui est aussi dans le rapport du sacré qui est, au fond, est-ce que si on historicise une question, une valeur, un désir, une œuvre, si on rappelle simplement qu'elle est fille du temps, est-ce qu'on la désacralise? Est-ce qu'on la profane? Moi, je n'ai jamais compris ça. Puisque je suis historien, je considère qu'on ne rabaisse pas quelque chose en le ramenant à son histoire. Et au contraire.
Au contraire.
Et même en riant, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais il me semble qu'on peut rire du sacré et que plus on rit du sacré, plus ce sacré existe en s'accordant à son cœur même. C'est pas trahir le sacré que d'en rire.
Le chroniqueur à Charlie Hebdo, entre autres, qui parle en vous.
Mais pas seulement. Je me dis que l'absolu ne souffre pas de l'autodérision, mais justement, plus on est dans l'autodérision, plus cet absolu qu'on essaye de vivre va s'affiner, en fait. C'est pas contradictoire.
Et alors, quand on est rabbin, on a de l'autodérision, il faut en avoir, on n'a pas de certitude.
Bien sûr, enfin,
comme le disait Yannick Hanel, Delphine Orvilla.
Ça, je pense, ça devient dangereux quand on l'a plus. C'est vrai qu'au cœur de ma tradition, de la tradition juive, il y a une place très forte donnée à l'humour et à la dérision parce que c'est un outil à la fois de résilience par rapport à son histoire et aux tragédies qui nous frappent. C'est une façon de dire qu'on est acteur de son histoire parce qu'on est capable de prendre une distance, parfois, qui est donnée par l'humour. Finalement, d'où vient le rire? Le rire, il vient d'une conscience que le texte, ou la blague, ou le récit, ou la phrase, peut dire plus qu'elle ne veut dire. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir dire qui est plus grand que son vouloir dire. Il y a ce qu'on pensait qu'elle voulait dire, et il y a ce qu'on peut lui faire dire. Et ce petit décalage de sens, c'est là où souvent le rire se glisse. Le rire se glisse sur le malentendu. En fait, c'est ça qui fait rire, bien souvent. Alors, il y a énormément de blagues juives qui sont construites sur cette idée.
Moi, vous en racontez souvent, d'ailleurs.
Oui, il y en a une. Vous en voulez une?
Oui, bien sûr.
Non, mais il y en a une, voilà, sur ce décalage de sens que je raconte très souvent. C'est l'histoire de deux hommes qui sont devant... C'est pas particulièrement une blague juive, d'ailleurs. C'est deux hommes qui sont devant un bain public et il y en a un qui dit à l'autre « T'as pris un bain ?» Et l'autre lui dit « Pourquoi il en manque un ?» Et vous voyez bien que ce décalage de sens qui nous fait bien comprendre que prendre un bain peut vouloir dire quelque chose et autre chose, c'est exactement le sens de l'exégèse et même du sacré et de la démarche religieuse, de dire que le texte n'a pas fini de parler et que de la même manière que Dieu est plus grand que ce qu'on pourrait en dire, eh ben son texte ou la révélation est plus grande que ce qu'on en a déjà dit. Et ceux qui refusent la grandeur et l'infini du pouvoir dire sont en train de profaner le texte, mais souvent ils le font au nom d'une forme d'orthodoxie religieuse, ce qui est fou. Ouais.
On vous retrouve dans un instant, Delphine Orwiller, Patrick Boucheron et Yannick Hanel dans votre grand atelier après avoir écouté un nouveau titre du dernier disque de Gaël Faye, Lueur.
Éteignez les lumières, je viens chanter mes pogos sur les rails de l'enfer, l'océan est Congo. Bien avant ma mort, mes rimes et mes vers me dévorent. J'enferme le monde dans mon corps jusqu'à ce que les mots me débordent. Transforme la chair en verbe, la douleur en art, l'ombre en lumière. J'ai traversé les mers, j'en ai pleuré des rivières. Vous finirez seuls et vaincus dans vos délires de sang impur. Et la haine que vos bouches écument n'aura plus prise sur nos vécus. On renne l'histoire et elle cale et les cales enchaînées dans bateaux. Fait d'un bois, fait d'un arbre où l'on pend d'étranges fruits distillés et broyés. Des cadavres empilés, des pelletés de charniers. Regardez les exodes, papillons volent et voguent. Regardez devant l'homme comment Dieu se dérobe. Comme il pleure en tornade nos ruines et nos guerres. Comme il pleure chaque soir un soleil incendiaire. Je peux plus respirer, leurs genoux sur mon cou, leur permis de tuer. Le réel est violent comme une jungle à Calais, un Congo, océan, tant d'offenses à laver. J'essuie les crachats, j'arrache des murs de France, les sourires banania. Et nos enfants qui viennent seront dignes et debout. Debout, dignes, dignes et debout. Je connais les entailles, les encoches de nos cœurs. Si leurs ténèbres m'assaillent, j'irai chanter mes lueurs. Invincible est notre ardeur, l'éclat de nos vies entêtées. Invincible est notre ardeur, éblouira vos en dedans. Invincible est notre ardeur, l'éclat de nos vies entêtées. Invincible est notre ardeur, éblouira vos en dedans.
Gaël Faye, lueur.